Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin, the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you.
C'est de l'œuvre de Alain Platel et Fabrizio Cassol dont nous allons parler aujourd'hui. Respectivement metteurs en scène et compositeurs, ils ont créé le spectacle Requiem pour Elle. Alain Platel, bonjour. Vous êtes un habitué de ces murs. Je veux parler du Volcan du Havre où vous avez déjà joué plusieurs fois. Dans cette pièce musicale et dansée, vous avez cherché à montrer au public avec votre compagnie les ballets C de la B. Une traduction visuelle et physique des images qui évoquent un requiem. Comment vous sont venues ces idées?
Ah, immédiatement, je dois donner la parole à Fabrizio, parce que le point de départ de ce projet est la composition que Fabrizio et son équipe des musiciens ont fait autour de la musique du requiem de Mozart. Donc c'est lui qui va vous expliquer.
Alors du coup, voilà, le Requiem de Mozart, Fabrizio Cassol. C'est une œuvre inachevée que vous avez réécrite au moyen de nombreux métissages. Vous y avez ajouté des éléments de jazz, de la musique africaine, même des sifflets pygmées, des dialectes africains.
Des langues africaines. il y a cinq, en plus du latin, il y a cinq langues, et un petit bout de sixième. Ce sont des langues. Chacun a son langage aussi dans le groupe. Donc il y a des musiciens qui sont du Congo, Congo-Brazzaville et RDC, et puis de Cape Town, de l'Afrique du Sud, et aussi d'Europe. Donc voilà, les musiciens africains parlent beaucoup de langues, beaucoup plus que les occidentaux en fait. Pour eux, parler 5-6 langues, c'est quelque chose de tout à fait commun. Ils peuvent parler 10 langues sans problème. Le Requiem de Mozart n'a pas été terminé par Mozart, donc il a été complété. Et moi, j'ai commencé par analyser le manuscrit, parce que c'est sur le manuscrit que le Requiem a été abouti. Et donc, on peut voir les différentes écritures. Donc, on peut voir ce qui vient de Mozart et ce qui ne vient pas de Mozart. Et donc, l'idée de base, évidemment, après ça se sophistique avec la collaboration de chacun, mais c'était de substituer, c'est une idée un peu théorique, puisqu'on l'a assouplie bien sûr, de substituer ce qui a été rajouté par d'autres, de le remplacer par d'autres, oui, musique, feeling, d'autres sentiments, d'autres émotions, de telle sorte qu'on puisse reconstituer une nouvelle cérémonie de deuil. Donc ça, c'est le principe de départ. Après, bon, c'est beaucoup plus subtil que ça, dans le sens où des choses qui ont été rajoutées plus tard, et qui ne sont pas écrites par Mozart, sont aussi très très bien, et des choses de Mozart qui ne sont pas nécessaires. Mais le principe était celui-là.
Alors, on est saisi lorsqu'on arrive dans la grande salle, devant la scène, de voir le décor. Ça m'a fait penser à un cimetière. J'ignore si c'est réellement ça ou pas, ou si c'est juste une disposition scénique qui va permettre aux danseurs de monter, descendre dessus, d'avoir différents niveaux. En tout cas, des cubes rectangulaires, peints en noir. Et puis, un rituel que j'ai vu avec des danseurs, en tout cas des comédiens, je ne savais pas qu'ils étaient danseurs, qui arrivent sur scène petit à petit et qui déposent des petits cailloux blancs au pied d'une tombe. Est-ce que c'est ça, Alain Platel?
Alors moi, je suis arrivé au moment que les musiciens étaient déjà en train de travailler depuis longtemps. Et donc, quand j'entendais la musique, je savais que c'était quelque chose de magnifique et de très très grand, quoi. À moi de voir et de penser comment est-ce que je peux donner un contexte théâtral autour de cette musique. Ça aussi, c'était la demande. Et donc, je me suis inspiré à plusieurs choses.
D'abord, il y a les musiciens qui viennent de partout et donc qui ont tous des histoires à raconter vis-à-vis de leur relation avec la mort, le deuil, etc. Donc, il y a plein d'éléments qu'on voit dans la pièce qui sont faits par les musiciens qui font référence à ça. Même si ce n'est pas expliqué, nous, on le sait et je crois que le public peut le sentir. Après, il y a le décor qui, pour moi, est une référence très directe à un monument à Berlin qui s'appelle le Denkmal, qui est un monument dédié aux victimes de l'Holocauste, qui fait pour moi référence à l'idée que vis-à-vis de la mort, l'être humain peut porter une responsabilité très, très lourde et très grave sur la mort des autres. Et puis le troisième niveau...
Sur le meurtre, en fait.
Sur le meurtre, oui. Et le dernier niveau, c'était cette idée audace de représenter ou de montrer la mort en direct en montrant un film, un document qui montre une femme qui est en train de mourir. Et donc ça c'est les trois niveaux auxquels j'ai travaillé.
Alors effectivement, on est saisi lorsqu'on voit l'image en noir et blanc d'une dame qui s'appelle Lucie, qui n'est pas une comédienne, qui est quelqu'un que vous avez filmé réellement avec son accord, bien sûr, et on la voit dans ses derniers instants de vie. Comment ça s'est passé pour vous, pour filmer ce genre de choses? Comment on fait? Comment on a cette idée-là? Et puis surtout, techniquement, comment on fait? On pose une caméra et puis on dit rien et puis on est le plus discret possible.
Dans beaucoup de travail que j'ai fait, la mort était très présente, mais représentée d'une manière métaphorique. Et quand j'ai entendu la musique de Fabrizio et son équipe, je voyais quelque chose, j'entendais quelque chose d'extrêmement fort. Je voulais aussi pas aller dans le superficiel, car le thème principal du Requiem de Mozart est bien sûr la mort. Et donc d'essayer...
Comme
de,
dans tous les Requiem.
Oui, voilà. Et comme je voulais chercher une image qui était aussi forte que la musique, je me disais, est-ce qu'on peut montrer quelqu'un qui meurt? Et c'est là que j'ai rencontré un vieux ami, un médecin, qui est aussi très engagé dans tout ce qui est les soins palliatifs, etc. Et je lui ai posé la question si c'est possible de trouver des images de quelqu'un qui meurt. Il dit oui, bien sûr, c'est possible, mais ce serait beaucoup plus fort et intéressant de rencontrer quelqu'un qui donne la permission de filmer sa mort. Et c'est là qu'on a rencontré, dans ce voyage qu'on a fait ensemble, Lucie, une femme que tous les deux on connaissait, et qui était confrontée avec sa mort, et qui connaissait très bien le travail, connaissait très bien le médecin, et qui nous a donné la permission de filmer sa mort et d'utiliser ses images. Après, il y a aussi toute l'histoire qu'on a vécue avec la famille, ensemble, pour bien sûr être sûr que tout le monde pouvait donner le support à ce projet. Ce qui n'était pas évident au début, mais depuis, la famille est vraiment très connectée avec ce projet.
Thank you.
des images poignantes. En fait, on voit quelqu'un qui semble dormir, qui ne souffre pas, qui a soif souvent, comme souvent hein, quand on arrive au seuil de ce moment où tout bascule. Et puis, on voit beaucoup de tendresse autour d'elle. On voit une main gracile qui lui caresse la joue. On voit quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui est accompagné dans ses derniers instants. Combien de temps a duré tout ce moment-là? Vous avez dû avoir beaucoup de rush, beaucoup de moments où vous avez coupé, parce que évidemment, on ne sait jamais quand ça va se terminer.
Au niveau de ce qui s'est passé pratiquement, je crois que ça c'est une histoire à côté. Dès qu'on avait les images, le travail qui pour moi était le plus dur, fascinant, excitant à faire, c'est de trouver avec Fabrizio, avec les musiciens, c'est quoi la relation qu'on peut installer entre ce qui se passe dans les images et ce qui se passe dans la musique. Et ça... Enfin, moi, c'est mes souvenirs que j'ai. C'était le truc le plus dur, mais aussi le plus excitant. Et de voir, par exemple, dans les images qu'on utilise, qui sont ralenties, en ralenti, de
oui,
voir les
très
liens...
fort ralenti, effectivement.
Oui,
mmh.
De voir les liens qui se passaient entre les images et parmi les musiciens et dans la musique, ça c'était le côté le plus excitant, je crois.
Alors je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que vous n'avez pas peur de, ou est-ce que vous redoutiez pas de transformer le spectateur en voyeur, puisque lui, évidemment, on lui balance ces images-là pendant une heure et demie, et ça peut être difficile. On ne sait pas si c'est un comédien, on peut se rassurer en disant que c'est une comédienne, que ce n'est pas vrai. Et puis en fait, quand elle s'endort à la fin, on a quand même un sacré doute. On se dit, tiens, c'est peut-être vrai.
Je crois que le projet en général était très dur à faire par ce choix, entre autres. Et les doutes, on les avait dès le début. Je me rappelle qu'on en a discuté aussi très fort et très souvent entre nous. Fabrizio et moi, et aussi les musiciens, pour savoir comment est-ce qu'on va gérer ce choix qui est très dominant, qui est très vivant, enfin qui est très là. Mais c'est en travaillant jour par jour, en communiquant entre nous, en communiquant avec les musiciens, et petit à petit de laisser entrer des gens qui venaient voir des répétitions, qu'on se sentait assez confortable à le faire. Et depuis la première, je crois, même si on a eu parfois des moments ou des réactions des gens qui ne supportaient pas, la réaction en général était très chaleureuse et très, très positive de la part du public.
Finalement, quel est votre objectif en montrant la mort comme ça en direct, ou presque, hein, puisque évidemment c'est du différé maintenant, mais quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous souhaitiez faire comprendre au public? C'est une question tabou, hein, la mort. On en parle peu. En Afrique,
je
on
suis
la
pas
célèbre.
Sûr. Je suis pas sûr si les gens en parlent peu. Je me rends compte que dans mon entourage, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui vraiment célèbrent la mort et qui commencent à trouver des alternatives pour les rituels classiques. Et je crois que ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire une proposition d'un rituel alternatif, de comment gérer la mort. Comment vivre avec, comment la célébrer, comment célébrer la vie par la mort. Je ne sais pas si ça correspond.
Oui, tout à fait.
Fabrizio.
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui font des propositions aujourd'hui, et ceci est une vraie proposition. On est dans le monde du spectacle, bien sûr. Quand quelqu'un part, si vous pouvez avoir un orchestre de 14 musiciens aussi fantastiques que ceux-là autour d'eux. Mais oui, je crois que le spectacle montre ce qu'on projette.
Alors voilà, j'étais en train de m'interroger justement en voyant le spectacle, en me disant, en France, en Europe d'ailleurs en général, hein, on porte la douleur en noir et on ne célèbre pas comme on le célèbre en Afrique, où on va danser, où on va faire de la musique, enfin dans d'autres pays aussi, hein, d'ailleurs il n'y a pas qu'en Afrique. Je pense pense à l'Amérique du Sud, etc. Est-ce que vous pensez que ce genre de spectacle peut faire évoluer justement les rituels, faire que les gens soient peut-être plus créatifs?
Personnellement, moi, je ne sais pas si c'est mon intention. On a vécu quelque chose ensemble qui est énorme, quoi.
Vous dites « on », vous parlez de qui?
De Fabrizio et moi, okay. Et l'équipe, et Lucie et sa famille, et l'équipe autour de cette production, et maintenant aussi le public. Je crois qu'on le défend très fort, mais l'effet que ça peut avoir sur quelqu'un, sur des individus, ça on ne sait pas. Ce que je vois à chaque soir, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans la salle. J'ai toujours peur, dès le début, qu'il y a des gens qui vont quitter la salle parce que c'est trop, je ne sais pas, enfin tout ça. Ça se passe rarement. Les gens restent ensemble pour vivre cette chose.
C'est vrai que personne
chose,
va quitter la salle,
voilà.
C'est vrai.
Même des enfants, parce que hier j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants en fait. Et je me suis dit, ouf.
Les enfants ont moins peur que les adultes.
Je ne sais pas s'ils regardent les images comme... ou interprètent l'image de quelqu'un qui est en train de mourir. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'endort. Donc dans ce sens-là, je crois qu'ils ont peut-être, je ne suis pas sûr, un rapport différent avec tout ça. Il y a tellement de choses qui se passent sur scène qu'ils ne s'ennuient pas. En tout cas, c'est quelque chose de très vivant.
Alors,
même dans les détails.
On voit sur scène régulièrement des chants ou des danses qui sont dos public. Pourquoi ce choix?
Je crois que dès le début, on a décidé, en tout cas moi j'ai proposé que ce qui se passe sur scène, c'est d'abord quelque chose, c'est un genre de rituel entre les musiciens. C'est-à-dire ils sont venus sur scène pour vivre musicalement ce rituel ensemble. Donc il y a un rapport très fort entre eux. Et après, bien sûr, il y a cette image derrière eux. Je leur ai demandé de faire des relations aussi avec ce qui se passe derrière, de faire un rapport aussi avec Lucie.
Oui, bien sûr, ce n'est pas un décor. Hein.
Voilà.
La vidéo fait partie complètement du spectacle.
Oui. Donc c'est dans ce sens-là que ça tourne dans tous les sens. Et que parfois, il y a des musiciens qui sont de dos, parce qu'ils communiquent avec l'image.
Voilà, on comprend bien hein, que c'est effectivement un hommage à cette dame qui est sur son lit de mort, et que du coup, le spectateur est juste invité à participer et à faire ce rituel, en fait, avec les comédiens et les musiciens.
Certainement. Et j'espère que c'est aussi un hommage à tous les morts que tous les gens amènent dans la salle, parce que le genre de réaction qu'on a souvent après le spectacle, c'est qu'il y a des gens qui parlent du fait qu'ils se rappellent certains gens qui sont morts et qui, dans leur propre vie, étaient très importants.
Il y a quelque chose d'important aussi dans cette vidéo, c'est qu'on voit qu'elle est chez elle, alors que beaucoup de gens meurent à l'hôpital aujourd'hui. Énormément sont amenés en ambulance à la dernière seconde pour être réanimés ou pour y vivre leurs derniers instants. C'est aussi une façon d'accompagner quelqu'un comme on le faisait autrefois. On mourait moins à l'hôpital autrefois.
Ben, moi, je me rappelle très fort cette histoire que tu as racontée quand tu étais c'était au Congo, où tu participais à une fête. C'était quoi exactement?
En République Centrafrique.
Oui.
Oui, mais ça, c'était une des premières fois où j'étais. Enfin bon, les choses probablement commençaient par ça aussi. C'est ma première arrivée sur le sol centre africain.
Fabrizio Cassol.
Nous sommes arrivés, on allait visiter les pygmées, vivre avec les pygmées dans la forêt. Mais en arrivant à Bangui, il y avait une musique incroyable qui résonnait dans tous les sens. Et alors, comme nous étions quelques musiciens, on était forcément attirés par ça. Et ça remonte il y a à peu près 30 ans, donc Bangui n'était pas le Bangui d'aujourd'hui, c'était plus comme un village. Mais on entendait les percussions, les chants, etc. Et donc on a couru pour aller vers la musique. Et puis les gens dansaient, chantaient, faisaient la fête. Donc nous avons été aspirés dans cette fête, tournés avec tout le monde, pris dans cette spirale. Et puis après quelques heures, quelqu'un est venu vers nous en disant, le père du défunt voudrait vous rencontrer. Et alors c'est là où on s'est rendu compte qu'on était dans une cérémonie, en fait, et de probablement quelqu'un de très jeune, puisqu'on a rencontré le père. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu un grand choc. Et c'est pour moi, ce choc-là est associé au choc de l'Afrique, vraiment, puisque c'était mon premier grand voyage au centre de l'Afrique. Et puis, depuis, sur les dizaines et les dizaines et les dizaines de voyages en Afrique, des cérémonies, j'en ai vu beaucoup. Mais pas seulement en Afrique, dans d'autres endroits du monde. Ici, comme en Inde, enfin, je ne sais pas, dans beaucoup d'endroits. Et je crois que c'était probablement pour ça qu'il était temps d'en proposer une, en tout cas musicalement. Et Alain, lui, comme il était beaucoup dans les réflexions par rapport à la mort tous ces derniers temps, je crois que c'est arrivé au bon moment pour pouvoir réfléchir ensemble.
Alain Platel, Fabricio Cassol, j'ai eu le sentiment que dans ce spectacle, c'était un message d'amour et de fraternité que vous souhaitiez faire partager.
Je confirme.
Oui, toujours. Je ne pense pas seulement dans ce spectacle-ci.
Oui.
Oui, enfin, là, c'est parce qu'on parle de Requiem pour elle. Oui, et du coup, mais effectivement, c'est quand même l'objectif ultime, c'est que les gens s'entendent mieux. Que le racisme cesse, voilà, est-ce qu'on est dans quelque chose d'irréel ou est-ce qu'on s'y achemine doucement?
Oui, absolument. Je crois que une des réactions qui m'a frappé le plus, c'est quand on jouait à la Monnaie à Bruxelles.
Jouer à la Monnaie?
La Monnaie.
Oui, vous pouvez nous faire un sous-titre parce que nous, ici en France...
La Monnaie, l'opéra de Bruxelles.
Mm-mm.
Et là, il y avait un professeur d'Arras, Amos Fergombe, qui vient de Cameroun et qui était là et qui après le spectacle venait pour nous dire c'est quand même incroyable, tu vois, on voit un spectacle ici dans un bâtiment qui est historiquement très important parce que c'est là que la révolution belge a commencé. Après un opéra, les gens sont venus, sont allés dans la rue, ils ont commencé la révolution. Donc on voit ça, c'est ce bâtiment qui est très 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 lié à une certaine histoire. Et on voit une troupe de musiciens incroyables qui viennent de l'Afrique et qui sont en train d'interpréter une œuvre iconographique de l'histoire de la musique européenne, le Requiem de Mozart. Ils le font même plus beau que l'original. Et ils sont là et ils ne communiquent pas... leur détresse, où ils ne font pas de référence à leur situation personnelle, d'où ils viennent, même si par leur présence on est confronté avec ça. Mais ce qu'ils font, c'est réunir 1000 personnes chaque soir pour vivre quelque chose en commun et en solidarité et en bonté et qui nous concerne tous, c'est-à-dire la chose la plus essentielle de la vie, c'est d'être confronté avec notre fin, avec la mort. Et la manière dont il a décrit cette pièce-là, dans cet endroit-là, pour moi, était très, très, très beau à entendre.
J'ai une dernière question pour vous, puisque nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Comment est-ce que vous recrutez, comment est-ce que vous faites votre casting pour choisir les musiciens, les danseurs, les comédiens? Il y a 14 personnes sur scène, ça grouille dans tous les sens, et tous ces gens-là, qui viennent d'horizons très différents, se complètent évidemment à merveille. Comment est-ce que vous avez réussi à faire un puzzle de cette façon-là?
Avant tout, ce sont des musiciens. Ils sont tous musiciens. Donc après, si certains ont la capacité, le talent d'être de superbes danseurs, au départ, on les rencontre parce qu'ils sont musiciens.
Ok.
Donc nous avons travaillé ensemble sur le projet précédent qui était Coup Fatal. C'est un mélange de musique baroque et de musique congolaise. Mm-hmm. Donc voilà, une partie des musiciens viennent de ce projet-là. Et ce projet-là, donc maintenant il a été fait il y a quelques années, mais la préparation de ce projet-là était aussi très très longue, pendant 4 ans. Nous avons des sessions pendant 4 ans à Kinshasa, avant la première. L'amitié, le travail, le partage des choses avec une partie des musiciens, c'est déjà, par exemple, Rodriguez Vangama, qui est le chef d'orchestre, oui, sur scène. Donc c'est une collaboration qui remonte maintenant à plus de 10 ans. Donc une partie des musiciens congolais viennent de ces expériences. Une partie avec les Sud-Africains viennent d'un autre projet que j'avais, où j'avais adapté le Macbeth de Verdi avec 10 chanteurs sud-africains. Donc aussi c'est une longue histoire. Et certains musiciens sont, c'est plus récent, mais en fait on ne peut pas commencer un projet comme celui-là, on ne peut pas s'attaquer à une chose aussi énorme que celle-là si on n'a pas une confiance, une amitié et déjà une expérience avant pour le faire. Je pense que c'est ce serait impossible. Après, ces musiciens-là, certains d'entre eux ont le talent naturel de danser, de bouger de certaines façons, et Alain sait révéler tout ça très facilement. Et donc, ça devient quelque chose qui se construit, qui se tisse par sa sensibilité. Mais je suis sûr que si vous allez sur scène, Alain, il va pouvoir vous rendre merveilleuse.
Ah oui, moi j'ai horreur d'être sur scène. Moi, derrière un micro, ça me va, mais alors sur scène, non. Si, pas du tout. Une question me vient, toutefois. Là, j'avais dit que c'était la dernière, mais quand même, une question me vient. Et Dieu dans tout ça? Et la religion dans tout ça?
Fabrice, aide-moi.
C'est très difficile. C'est très difficile. C'est tellement personnel, ce genre de choses. Et en plus, déjà, le mot Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour chacun, ça veut dire quelque chose de différent. Donc, quand on dit je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, on n'est pas sûr de croire en la même chose ou de ne pas croire en la même chose. Donc, je préfère que. Pour moi, de toute façon, chacun dit ce qu'il veut, mais ce qui est important au moment où on crée, ou je ne sais pas quoi, ou ce qu'on peut dire, c'est que le niveau d'intensité soit si fort quand le niveau d'intensité est fort, il monte. Et qu'à un moment, peu importe à quoi on l'associe, mais que de toute façon, on sente dans son intimité qu'il y a des forces qui sont mystérieuses et qui agissent. Je crois que quand des musiciens comme ceux qui jouent dans Requiem, à un moment, ont une telle intensité émotionnelle, l'intensité émotionnelle n'a rien à voir avec la puissance. Parce qu'à la fin du spectacle, lorsqu'ils chantent, qu'ils restent comme ça à la cappella, il n'y a aucune puissance dans le sens de la force. Mais émotionnellement, le niveau de vibration est tellement haut, et alors chacun fera les déductions qu'il veut par rapport à ça. Mais il n'y a pas d'intensité sans mystère.
Merci beaucoup Alain Platel, merci beaucoup Fabrizio Cassol. Vous êtes donc respectivement metteur en scène et compositeur de ce spectacle Requiem pour Elle. Et merci de votre participation à cette émission Portrait. Merci à l'équipe technique de Radio Albatros pour sa mise en onde. Si vous n'avez pu écouter entièrement cette émission, vous pouvez la podcaster sur notre site radioalbatros.com. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même fréquence, même jour, même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view.